RCF.
Bonsoir, bienvenue à Saint-Brieuc, à La Passerelle, lieu de culture majeur de la capitale des Côtes d'Armor, dont la qualité du travail est couronnée par le label Scène Nationale. Nous enregistrons cette émission le 17 octobre, dans le cadre de la journée du refus de la misère. Il y a du monde dans cette entrée du théâtre, où Guilhem Thiénot, le technicien de RCF Finistère, venu de Brest en voisin, a installé notre plateau. Alors merci à vous qui êtes là, qui avez choisi de consacrer votre soirée à cette émission. Est-ce que ça fait du bruit, du monde dans le hall du théâtre, ici à La Passerelle à Saint-Brieuc? Alors, pour préparer cette journée et donc cette émission, c'est un collectif qui s'est réuni. Il y a ATD Quart-Monde, bien sûr, dont le fondateur, le père Joseph Brzezinski, a initié il y a 30 ans cette journée. Mais il y a beaucoup d'autres partenaires et c'est toute une démarche collective qui se vit ici autour de cette journée. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, pour un monde qui ne laisse personne de côté, eh bien, je vous propose qu'on écoute deux personnes, Cécile Bienne et Jean-Claude Lemercier. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Vous allez nous parler de cette démarche. Cécile, vous êtes responsable du centre social du Plateau. C'est l'un des trois centres sociaux de Saint-Brieuc. Et puis Jean-Claude, vous faites partie du mouvement ATD Quart-Monde. Vous êtes diacre et vous êtes délégué diocésain à la solidarité. Alors peut-être, Jean-Claude, d'abord, d'où est venue cette volonté de faire ensemble? Ça fait combien de temps qu'ici à Saint-Brieuc, vous célébrez ensemble cette journée du refus de la misère?
Il y a une dalle ici à Saint-Brieuc depuis 2011.
Une dalle, donc.
Une dalle, donc c'est la réplique en fait de la dalle qu'il y a sur la place des droits de l'homme au Trocadéro. Et donc cette dalle nous oblige chaque année à nous rencontrer avec différentes associations de Saint-Brieuc qui ont des pédagogies diverses pour lutter contre la misère, être avec les personnes. Et nous avons vraiment choisi de nous retrouver ensemble pour décliner cette journée d'une manière originale et à chaque fois, eh bien chaque année, nous reprenons le travail pour trouver quelque chose de nouveau.
Alors, il y a toujours un risque quand on fait ça d'oublier quelqu'un, mais j'aimerais quand même que vous nous citiez un peu qui sont ceux qui constituent ce collectif pour qu'on voit de quoi il s'agit.
Alors, je pense que le collectif est mouvant puisqu'il y a des associations qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, je peux dire, peut-être en oubliant quelques-uns, qu'il y a Amnesty International, Caritas France, à Tirdel, à Dalea, Personnalité et Citoyens, il y a Culture à tous, CCFD Terre Solidaire, la Ligue des Droits de l'Homme, Emmaüs, il y a la MJC du Plateau, le Centre Social du Plateau, il y a la Villa Carmélie et bien sûr la ville de Saint-Brieuc, puisqu'elle est impliquée aussi dans cette mise en place de la dalle, quoi.
Alors bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas toutes ces associations, mais il y a des représentants qui sont là, donc au fil de l'émission, on aura sans doute l'occasion de mieux découvrir ce que sont certaines de ces associations. Alors cette année, le thème de la journée, c'est « Pour un monde qui ne laisse personne de côté », c'est aussi le thème de cette émission et de ce forum. Mais dans les moyens que vous avez choisis, Cécile, vous qui êtes responsable du centre social du Plateau, c'est vous, je crois, qui avez la maternité de l'idée, c'est de faire quelque chose autour des photos. Alors racontez-nous quel est le projet et puis comment vous avez eu cette idée.
Oui, donc bonsoir. Donc en fait, le centre social du Plateau n'est pas à l'origine signataire de la charte, mais depuis sur le territoire français, les centres sociaux sont partenaires d'ATD et des journées de refus de la misère. Donc on trouvait, ça fait quelques années qu'on travaille avec ATD sur cette journée-là, et cette année on a voulu s'impliquer davantage, puisqu'il est vrai qu'au centre social du Plateau, c'est un lieu d'accueil pour tous les publics et ouvert à tous. Et donc quand on s'est réunis sur les premières réunions de préparation de cette journée d'aujourd'hui, moi je me suis posé la question autour de la table. On était différents partenaires et acteurs et on n'avait pas forcément la même définition, la même vision, la précarité, de la misère, de la pauvreté. Et parfois, c'est difficile de mettre des mots, d'écrire, d'avoir une... Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une réelle définition de toute façon aujourd'hui et d'a trouver un consensus. Donc en fait, j'ai proposé qu'on puisse travailler autour de photos. Puisque les photos, elles peuvent être universelles, elles peuvent être la même, on peut les faire voyager, et elles peuvent exprimer différentes choses. C'est-à-dire que une même photo peut servir à chacun à exprimer des sentiments, des ressentis, du vécu, témoigner. Puisque l'objectif de ces photos, c'est de permettre à des personnes de tout horizon, mais aussi de faire participer les personnes qui vivent en situation de précarité et de misère, entre guillemets, de pouvoir s'exprimer et de faire remonter ce qu'elles peuvent vivre au quotidien. Donc on a fait le choix dans le collectif de partir de photos. On aurait pu prendre des photos sur Internet, puisque si on tape misère, pauvreté, on trouvera plein de choses. Sauf qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'appuie sur notre territoire, la ville de Saint-Brieuc, et qu'il y avait des choses à montrer, à faire valoir. Et que dans ces photos, il n'y avait pas que le côté négatif, mais aussi le côté positif, puisque au travers de vous, déjà le fait d'être en collectif et d'animer ce réseau-là, ça montre qu'il y a des dynamiques positives sur cette question-là. Donc, on a fait le choix de mobiliser les différents acteurs partenaires sur cette action en disant, voilà, vous pouvez... Alors, je sais qu'il y a des habitants aussi, des usagers des différentes structures qui ont pris des photos, hein, on pense à certains, voilà, qui ont pris dans la rue, sur l'espace public. Alors, c'est vrai que c'est des photos qui ont été prises beaucoup sur l'espace public. Donc, pour permettre à chacun de s'exprimer et de partager ses ressentis.
Alors, ces photos, elles vont être au cœur de cette émission. On va s'appuyer dessus, on va essayer de les faire vivre, de les décrire pour les auditeurs qui ne les voient pas. C'est un bon exercice aussi, parce qu'une photo, ça raconte plein de choses qu'on peut mettre en parole. Merci à tous les deux, Jean-Claude et Cécile, d'être venus nous expliquer ce projet sur lequel on va s'appuyer. Puis, on va vous entendre encore dans le fil de l'émission.
Vous avez dit fragile. Une coproduction RCF, Participation et Fraternité.
Au cours de cette émission, nous allons rêver à un monde meilleur, à une ville meilleure, une ville où chacun aurait sa place. Mais comme il ne s'agit pas seulement de rêver pour rêver, mais bien pour essayer de dessiner des pistes réalistes, on va partir du réel, de la ville telle qu'elle est, de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses difficultés, mais aussi ses aspects positifs. On va parler de la ville et en particulier de la place que chacun y trouve ou pas, parfois. Et pour cela, j'accueille Sylvie, Daniel et Claire. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Je vous propose peut-être pour commencer de faire un peu plus connaissance avec vous, de nous dire chacun en une phrase ou deux qui vous êtes, Daniel.
Je suis membre du conseil citoyen de la ville de Saint-Brieuc et administrateur à l'MJC et bénévole au centre social.
Donc très actif. Peut-être dites-nous de deux mots un conseil citoyen. Qu'est-ce que ça y a ? Conseil municipal, mais le conseil citoyen, c'est quoi ?
Ce sont des habitants qui ont été tirés au sort sur la liste électorale. Moi, j'étais candidat en tant que volontaire.
Claire ?
Bonsoir. Moi, je suis éducatrice spécialisée à l'association Adalea à Saint-Brieuc. Donc, j'interviens sur un dispositif d'hébergement.
Alors peut-être que c'est le moment de nous dire un peu ce qu'est Adalea, en deux, trois phrases.
Adalea, c'est une association donc, qui est basée à Saint-Brieuc et qui intervient auprès de personnes en situation de précarité. Donc que ce soit les femmes victimes de violences, les personnes en errance. Il y a plusieurs pôles, hébergement, logement, accueil, écoute, éveil social et emploi, formation.
Et puis Sylvie, alors vous, qui êtes-vous en quelques mots ?
Bah, Sylvie, je suis des villages.
Qu'est-ce que c'est le village ?
Bah, c'est le village.
Peut-être que Claire peut nous aider.
C'est un quartier de Saint-Brieuc.
C'est le quartier où vous habitez, quoi.
Voilà.
Pour qu'on vous connaisse mieux et qu'on comprenne aussi dans ces photos dont on vient de parler comment elles décrivent la ville, chacun d'entre vous a choisi une photo. Je vous propose de nous en parler. Peut-être Sylvie, c'est vous qui allez commencer. Je la décris, votre photo, puis après vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisie. On voit un matelas posé dans une cage d'escalier à l'extérieur et avec une espèce de couverture dessus. Pourquoi vous avez choisi cette photo ?
Parce que quand je suis arrivée à Saint-Brieuc, c'était dans un matelas que j'ai dormi. Avant de se trouver un appartement et un emploi.
Et ça a duré combien de temps, cette vie-là ?
Ah non. Après, j'ai trouvé un appartement et j'ai trouvé un travail.
Et qu'est-ce qui vous a aidé à passer de cette situation-là ?
C'est qui m'a aidé ? C'est Adalea.
C'est Adalea. Et comment ils s'y sont pris ?
Bah, j'ai ouvert la porte et ils m'ont accueilli.
C'est-à-dire ? Non, c'est vous qui êtes allé les voir. C'est pas eux qui sont venus jusqu'à vous dans la rue.
Non,
c'est vous qui avez fait la démarche. Voilà. Où vous trouviez le ressort, l'énergie pour faire cette démarche-là ?
Bah, en fait, c'est le bouche à oreille que j'ai trouvé à Adalea.
Daniel, vous avez choisi une photo sur laquelle on voit deux bancs vides avec un buisson derrière.
C'est effectivement une photo que j'ai découverte et qui me font penser surtout à la rupture sociale, le silence. Il n'y a personne assis dessus, ils sont seuls. Donc je pense que le mieux, ce serait d'essayer de rompre cet isolement et permettre aux personnes de se retrouver plus facilement.
Pour vous, dans la ville telle qu'elle est aujourd'hui, l'isolement est grand ?
Malheureusement, oui. De plus en plus aujourd'hui, en 2017, ça fait un peu peur.
C'est quelque chose qui vous parle à vous, à titre personnel, cet isolement-là ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi ?
Je préfère
comment...
pas. Ça reste au plus profond de moi. Et je préfère conserver pour moi.
Oui. Mais en tout cas, vous faites beaucoup de choses.
Ben justement, c'est pour ça que j'essaie d'apporter mon soutien à ces personnes-là à travers les actions avec le centre social, l'MJC ou le conseil citoyen.
Cet isolement dont parle Daniel, Sylvie, vous, quand vous étiez, on pourrait vous imaginer sur cette photo, sur ce matelas, c'est quelque chose que vous avez connu ?
Oui, ben, c'est l'isolement. Hein.
Et qu'est-ce que c'est ?
Et la peur de se faire agresser en même temps.
La peur de se faire agresser aussi.
On dort mal.
On dort mal, du coup ? Oui. Parce qu'on a tout le temps cette peur-là ?
Ben.
L'isolement, ça provoque quoi, en fait ? Comment on se sent, quoi, quand on vit ça ?
Un peu dépressif. Hein.
On pourrait se dire, le plus dur, c'est de ne pas avoir de toit. Mais est-ce que c'est aussi dur d'être isolé, justement ?
Bah oui, quand on est isolé et qu'on n'a pas de toit, oui, c'est sûr qu'on n'ose pas aller voir les autres.
Et les gens qu'on rencontre à ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent être une aide pour rompre cet isolement ? Est-ce qu'on rencontre des gens quand on vit dans la rue ?
Ça dépend, quoi. Parce que les gens, ils nous regardent pas de la même façon quand on est dans la rue.
Comment ils vous regardaient, justement, les gens ?
Un peu méchant.
C'est-à-dire des gens qui passaient près de vous ?
Mmh.
Vous sentiez qu'ils vous regardaient avec un regard un peu méchant ?
Ouais.
Mais c'était quelque chose de général ou il y avait des regards différents ?
Non, entre moi, il y avait des gens qui me parlaient aussi.
Et c'est important, ça, que des gens juste vous parlent, même s'ils vous donnent pas d'argent ?
Ah bah non, bah oui, c'est chaleureux. Hein.
Pour des gens qui sont pas dans la rue, quand ils passent près d'un SDF, par exemple, souvent, s'ils donnent pas, ils vont détourner la tête parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Il vaudrait mieux qu'ils parlent, même s'ils n'ont rien à donner, même s'ils ne donnent pas d'argent.
Ouais, même un sourire, hein. Ça fait mal à la personne.
Et ça, des sourires, c'est pas le plus fréquent quand
non.
On vit à la rue ?
Non, c'est pas le plus fréquent, non.
Et un sourire, ça fait quoi ? Parce qu'on peut se dire, un sourire, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout.
Mais ouais, c'est gratos, quoi.
Et pourquoi c'est si important ?
Bah parce que ça fait du baume au cœur, quoi.
S'il n'y a pas de sourire, qu'est-ce qu'on éprouve, en fait ? Si la personne passe juste comme ça, sans...
C'est nul, quoi. Ça fait du mal quand la personne ne vient pas nous parler. Bah, c'est qu'il m'ignore, quoi.
Claire, vous avez choisi une boîte, c'est une boîte à cigarettes,
ouais.
Dans laquelle il y a des pièces.
Mmh. C'est la boîte d'une personne que j'accompagne, donc il s'en sert pour faire la manche. Donc il la pose devant lui. Il va tous les jours au même endroit depuis des années. Et il a beaucoup de choses à dire, mais il a du mal à prendre la parole. Donc j'avais voulu prendre sa boîte en photo. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça faisait longtemps en fait qu'il avait passé ce cap de l'image de qu'il pouvait renvoyer. Et ça aussi, il le dit. Hein. Rien qu'un bonjour, une petite pièce aussi, bien sûr, mais au moins bonjour. Et il se posait la question. Il se disait, est-ce que les gens qui passent par là tous les jours voient qu'il y a toujours le même gars qui est là ?
L'impression d'être devenu invisible, presque.
Ouais. Et à côté de ça, il a une place dans ce quartier parce que certaines personnes peuvent s'inquiéter de ne pas le voir, étant donné qu'il est là tous les jours. Si un jour... il n'est pas là, il y a quand même des gens qui s'interpellent et voilà. Il fait aussi partie de ce quartier, mine de rien.
Et dans la ville en général, tous les trois, vous avez l'impression que les gens, des gens différents, comme vous pouvez l'être, tous les trois, vous avez chacun des vies assez différentes, j'imagine, des parcours, des expériences. Là, vous avez construit cette journée ensemble, donc vous avez été, il n'y a pas eu de problème, enfin, des gens différents ont vraiment bâti quelque chose ensemble. Dans la ville au quotidien, est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est quelque chose qui est souvent possible ? Que des gens différents se mettent ensemble, fassent des choses ensemble ?
C'est primordial.
C'est primordial, mais est-ce que ça se
pour
fait beaucoup ?
Pour la solidarité, pour l'entraide, pour le partage, l'échange. Il y a beaucoup de choses à rentrer en jeu là-dedans.
Par exemple, vous, votre expérience à la MJC ou au Conseil citoyen, vous avez pu construire des choses avec des gens très différents ?
Oui. On a mis en place avec la MJC le Café Nomade. Le Café Nomade a pour objectif d'aller dans la rue vers les gens, rompre l'isolement. leur permet de prendre la parole sans jugement. Ça, c'est important déjà, de pouvoir parler, d'échanger, dialoguer.
Claire, vous êtes, vous l'avez dit, éducatrice spécialisée. Parfois, il peut y avoir des questionnements autour de... il y a d'un côté des gens comme vous qui sont salariés du monde de la solidarité, du social, d'autres qui sont bénévoles, et puis il y a les bénéficiaires. Et on sent bien, par exemple, avec ATD Carmonde, que tout ça bouge, que les places se redessinent. Comment ça se passe, le lien, justement, entre tous ces gens-là très différents pour mener un projet comme celui de cette journée, par exemple ?
On a tous un objectif commun, et c'est aussi... remettre un petit peu de solidarité entre nous tous, de voir qu'on n'est pas tous si différents que ça, essayer de faire entendre la parole de chacun. Toutes ces personnes ont un passé, un futur et ont eu une vie, et donc eux aussi, on doit les entendre, on doit les écouter et leur donner la parole, des espaces de parole.
Et par exemple, quand Sylvie raconte ce qu'elle raconte en disant « moi j'ai vécu dans la rue, le regard des gens il était comme ça, j'ai vécu ci ou ça », est-ce que pour vous c'est utile dans votre travail par exemple ?
Bien sûr, enfin, c'est justement en les accompagnant, en essayant de faire changer ce regard aussi. On peut parfois être là auprès d'eux pour essayer de traduire un peu ces deux mondes, un peu inaccessibles l'un à l'autre, quoi.
Merci à tous les trois, Sylvie, Claire et Daniel, de vos témoignages. On va maintenant pouvoir poursuivre l'échange avec toutes les personnes qui ont pris place ici dans ce hall d'entrée du théâtre de la Passerelle à Saint-Brieuc. Merci beaucoup.
Vous avez dit fragile, Anne Carléo, Daniel Massiel.
Nous sommes toujours à la Passerelle, à Saint-Brieuc, pour un forum sur le thème « Pour un monde qui ne laisse personne de côté ». C'est le thème de la journée du refus de la misère en cette année 2017. Après les témoignages de Sylvie, Claire et Daniel, qui ont accepté de nous dire comment ils vivent la ville et comment ils se sentent dans l'espace public, comment ils voient aussi que les autres s'y sentent, la parole va maintenant circuler pour poursuivre la réflexion et l'échange.
Tiffaine, vous avez choisi une photo que vous allez nous décrire.
Alors moi j'ai choisi la photo, c'est un banc sur l'espace public avec recouvert d'une couverture de différentes couleurs. Donc cette photo-là, ça m'évoque comment la personne peut vivre concrètement dans la rue. Donc pour moi c'est plus la personne s'est approprié ce banc-là. Pour moi elle a mis sa couverture, elle l'a décorée à sa façon comme une personne qui vit dans une maison peut décorer... sa maison à l'aide de décoration, cette personne-là, elle a voulu s'approprier le banc par des couvertures qui peuvent lui ressembler et s'approprier à elle.
Et vous êtes sensible au fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas de toit et qui sont à la rue ?
Oui, beaucoup. Moi, je trouve que y a beaucoup d'institutions qui font pas mal de choses pour ces personnes-là, mais je pense qu'il leur faudrait encore plus pour pouvoir améliorer le confort de toutes ces personnes-là.
Vous êtes étudiante, vous pouvez nous dire ce que vous faites comme étude ?
Donc, je suis actuellement en licence professionnelle, accompagnement des publics spécifiques, spécialité vulnérabilité à l'UCO de Guingamp.
Qu'est-ce qui vous a poussé à ce type d'étude ?
Déjà, j'ai commencé par une licence de psychologie, ça me plaisait beaucoup, mais après, c'était beaucoup de réflexion sur la personne et moi, je voulais plus un accompagnement d'un projet dans la vie de la personne pour l'aider à s'intégrer plus à la vie sociale.
Alors il y a parmi les participants de cette émission ce soir des gens qui sont timides et ils ont bien le droit, mais ils ont des voisins qui le sont moins. Alors Daniel, vous faites partie de Vie Nouvelle. D'abord, qu'est-ce que c'est d'un mot, Vie Nouvelle ?
Alors Vie Nouvelle, c'est une organisation d'ailleurs qui est partie prenante localement de la journée du 17 octobre. Bon, elle ne participe pas directement à la lutte contre la misère et la précarité, mais disons qu'elle est sensible à tout ce qui est action citoyenne où des gens s'organisent, se lèvent justement pour que la vie soit meilleure.
Et alors votre voisine qui s'appelle Gisèle avait des choses à dire et vous faites son porte-parole. Décrivez-nous peut-être à partir de quelle photo vous avez échangé tous les deux.
La photo où on présente une grande bâtisse qui semble-t-il a été rénovée, retapée, mais qui semble vide. Et tellement vide que devant il y a un grand mur, il y a même un portail fermé. On voit juste une personne qui passe devant, mais c'est tout. Et la question que Gisèle a soulevée pour nous, c'était de se dire, mais voilà, il y a sûrement plein de bâtiments vides partout, et en voici un. Pourquoi ne sont-ils pas mis à disposition d'une façon ou d'une autre à des gens qui en auraient bien besoin ?
Gisèle, il a bien transcrit. Vous avez envie d'ajouter quelque chose?
Non, il a bien dit ce que j'ai ressenti.
Bon, et nous, on est très contents d'avoir entendu votre voix quand même.
Ajouter quand même quelque chose de très, très bien. Mais aussi, il y a des personnes qui refusent d'être hébergées. Alors, on ne sait pas pourquoi, quelles sont leurs raisons, on les respecte évidemment, mais il y a sûrement une adéquation à trouver entre des logements vides et puis des personnes qui en ont bien besoin.
Philippe, vous pouvez nous décrire la photo que vous avez choisie?
Oui, alors moi j'ai choisi la photo où il y a des jeunes qui jouent en bas d'une cage d'escalier. Donc on voit plusieurs habitants en fait qui sont rassemblés autour de ces jeunes. Et je pensais aux trois personnes qui ont témoigné tout à l'heure, puisqu'on parlait d'isolement, de solitude et tout ça. Donc je pense que des petites initiatives comme ça favorisent la rencontre, le vivre ensemble. Donc voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de petites initiatives comme ça qui se multiplient et qu'il faut les maintenir pour justement qu'il y ait toujours de la cohésion entre tout le monde.
Ce sont des jeunes qui ont quel âge?
C'est des jeunes qui ont entre 10 et 12 ans. Puis à côté, on voit les habitants du quartier. Donc c'est intéressant de voir justement ce mélange de personnes plus âgées, moins âgées, qui partagent un temps ensemble, qui ne vont pas être amenées forcément à se revoir, mais qui, sur le temps d'une après-midi, vont échanger ensemble sur leurs projets, sur leurs passions.
André, vous faites partie du mouvement Emmaüs et vous avez choisi de nous parler d'une photo où on voit deux hommes dans la rue avec un chien qui joue aux échecs. Pourquoi cette photo?
Ces personnes, elles ont l'air heureuses. Il y a le chien, le compagnon fidèle auquel ils tiennent. Dans les lieux d'accueil, il y a des problèmes. Il y a les personnes qui ont les chiens, par exemple. C'est vrai que chez nous, à Emmaüs, bon, on accueille 54 compagnons et compagnes, mais la personne qui se présente avec un chien, il faut qu'elle laisse son chien à la porte. C'est un problème, il faut qu'il y ait des lieux, d'autres lieux sur Saint-Brieuc. On est plus un association à essayer de trouver des solutions. Il faut trouver des lieux d'accueil aussi pour ces personnes-là.
Michel, vous êtes des Restos du Cœur.
Bonsoir. Oui, c'était juste pour un petit avis sur la photo des échecs. Je trouvais ça formidable, malgré les difficultés que ont tous ces gens, y compris surtout avec les animaux, ils aient une petite plage de bonheur, faire un échange entre eux. Il y a même le jeu, leur font à ce moment-là un moment de plaisir, de soulagement, de paix. Et j'avais trouvé ça formidable que, malgré leurs difficultés, leur vie, ils aient la possibilité d'échanger entre eux, en dehors de l'agressivité ou de je ne sais pas quoi, des problèmes. Ils arrivent à jouer entre eux et trouver des petits bonheurs. Ça, j'avais trouvé ça sympa.
Nicolas, vous aviez choisi également une photo avec des bancs. Et pourquoi avez-vous choisi cette photo?
J'ai choisi cette photo parce que je la trouve un peu antinomique avec le thème qui est de faire prendre la place à chacun d'entre nous, de ne laisser personne de côté, parce que les deux bancs sont vides. Et s'ils sont vides, ils m'ont permis de m'exprimer spontanément tout à l'heure par écrit, parce que s'ils sont vides, ils sont ouverts à ce qu'on puisse s'y asseoir. Et peut-être manque-t-il, c'est pour créer une passerelle avec ce qu'a dit Daniel tout à l'heure peut-être, il manque de lieux où chacun d'entre nous puisse s'exprimer, où chaque citoyen puisse s'exprimer en tant que citoyen.
Vous trouvez qu'il manque ça aujourd'hui dans la ville pour que chacun ait vraiment sa place?
Peut-être des espaces d'expression.
Alors vous êtes en lien avec un comité de quartier ici sur Saint-Brieuc. Et vous faites quoi dans ce comité de quartier?
Eh bien, dans ce comité de quartier, qui est le comité de quartier de la ville Basse-Terre, à l'est de la ville, je fais partie du conseil d'administration. Et à titre personnel, j'y anime un atelier d'écriture.
D'où le lien avec l'expression que vous souhaitez développer pour tous.
Oui, j'ai fort à cœur de montrer que l'expression écrite peut ne pas être un obstacle et aussi un espace d'expression autant que possible facile grâce à quelques techniques simples.
En fait, ne laisser personne de côté, ça peut aussi passer par l'écriture et c'est accessible à tous.
Oui, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a envoyé un mail il y a 2 jours me demandant si c'était ouvert aux débutants. Je lui ai répondu tout en souriant, oui, évidemment que c'est ouvert aux débutants. Et c'est même très plaisant lorsqu'il y a des débutants parce que les personnes sont quelque peu vierges d'a priori et se sentent capables. Et on est tous capables, à moi avec quelques techniques, de leur mettre le pied à l'étrier.
Jeanne-Marie, vous faites partie d'Amnesty International.
On fait partie du groupe Amnesty International de Saint-Brieuc. Donc d'abord, je suis très très impressionnée par les témoignages. Par contre, toutes les photos qu'on voit, je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on s'en y habitue. On est dans un pays qui a les moyens, dans des communes où on peut loger les gens, où on peut trouver des solutions. Pour ce que ces photos-là, on ne les voit jamais plus. Et en fait, on a l'impression que malheureusement... il n'y a pas du tout d'action de fait dans ce sens-là. Et quand on parle de logement, je pense qu'en France, on est riche de logements. C'est ce que disait Daniel tout à l'heure. Il y a plein de logements qui sont vides, qui pourraient être rénovés. Quand les gens ont des logements, c'est beaucoup plus facile de trouver des formations. Il manque des tas de métiers manuels sur Saint-Brieuc. Il manque des postes. Et pour moi, on doit énormément aller dans ce sens-là. Et pour ne plus jamais voir des gens dans la rue.
Alors bonjour, je suis Patricia, je travaille à Dahlia. Donc moi, la photo qui m'interpelle, c'est la photo avec le caddie et le vélo avec toutes les affaires là. C'est un chariot, enfin une charrette, hein, où on transporte d'habitude les enfants, je pense qu'ils s'attellent derrière un vélo.
Oui, c'est une petite carriole de vélo.
Une petite carriole, et je pense que le monsieur ou la dame, hein, je ne sais pas qui c'est, a toute sa vie dans ce... Et j'espère qu'à l'avenir, on n'en verra plus des comme ça.
Moi, je m'appelle Elisabeth. Je suis membre d'Amnesty International. Et donc, moi, c'est la photo dont a parlé la jeune femme tout à l'heure, le banc avec la couverture. En fait, c'est une couverture en patchwork, qui est très jolie, avec plein de couleurs. Le patchwork, ça se fait à plusieurs. Et je pense que c'est symbolique aussi. C'est que si on s'y met à plusieurs, il y a encore un trou dans la couverture. On peut continuer la couverture et on sera mieux, tous mieux assis.
Nadège, je suis éducatrice spécialisée à la pension de famille d'Adalea. Moi, la photo que j'ai choisie, c'est une boîte, plutôt une bibliothèque qui s'appelle Lecture Voyageuse, Escale des Promenades. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette bibliothèque, elle est accessible à tous, quelle que soit sa situation. Et je vais faire le lien entre le professionnel, mon métier, et ma vie personnelle, parce que dernièrement, ma fille est arrivée, 16 ans, étudiante, lycéenne, en me disant oh, « Maman, j'ai trouvé un super endroit ». Je lui dis « Ah oui, je connais ». Elle m'a dit « Mais je peux en mettre ?» Ah, je lui dis « Vas-y, lâche-toi ». C'est pas étiqueté bibliothèque pour son domicile, pour c'est une bibliothèque de partage, et que c'est aussi par le partage qu'on y arrive tous ensemble.
Vous avez dit « Fragile », une émission présentée par Anne Kerléo.
Et nous sommes toujours à la Passerelle à Saint-Brieuc, où d'ailleurs, pendant qu'on parle, d'autres écoutent de la musique. C'est un lieu plein de culture et plein de vie qu'on remercie de nous accueillir ici pour ce forum à l'occasion de la journée du refus de la misère. Alors après avoir partagé ces expériences de la ville telle qu'on la vit aujourd'hui, je vous propose maintenant de rêver à une ville meilleure, pas juste pour le plaisir de rêver, mais pour inventer une ville possible. Il s'agit donc de partager des pistes concrètes pour bâtir une vie où chacun aurait sa place. Je vous propose pour cela qu'on s'appuie sur les témoignages de deux personnes qui ont des tas d'idées sur la question et qui ont même fait l'expérience dans des lieux où ils sont impliqués que c'est possible de construire une société ou en tout cas des groupes où chacun aurait sa place. Alors j'accueille de nouveau Cécile. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous êtes toujours responsable du centre social
oui,
du plateau.
Pas changé.
Et puis Jérôme, bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
Alors je propose que vous commenciez par nous dire un peu qui vous êtes, parce que aujourd'hui, vous prenez la parole d'une voix forte, bien posée, vous vous exprimez très facilement. Ça n'a pas toujours été comme ça parce que vous revenez d'assez loin. Alors d'où revenez-vous, Jérôme ?
Je viens de la rue, j'ai été 4 ans à la rue. Après une vie normale, hein. J'ai été cuisinier 19 ans, dont 10 ans chef de cuisine, donc avec des responsabilités. Une vie sociale, tout ce qu'il y a de plus banal, normal. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, tout lâché. J'ai fait un repli sur moi-même, sur ma vie sociale, sur mon métier. J'ai tout arrêté, je me suis retrouvé à la rue. Du jour au lendemain.
Et vous êtes là aujourd'hui. Alors
oui.
On imagine qu'après, il y a eu d'autres étapes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu, petit à petit, en sortir et retrouver, vous remettre debout, en fait ?
Je m'en suis sorti parce qu'au bout de 4 ans de rue, j'étais au bout du rouleau. J'en pouvais plus. C'est mon assistante sociale, en fait, qui m'a envoyé à Dahlia. On va en reparler encore d'Adalea, mais c'est eux qui sont venus me voir. C'est une maraude, en fait. Ils sont venus me chercher un après-midi. Alors moi, je ne parlais plus à personne depuis 4 ans. Donc c'était très compliqué. J'ai d'abord refusé. Et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ils ont réussi à me convaincre. J'ai eu un rendez-vous le lendemain avec cette structure. Et ça s'est enclenché assez rapidement, en fait. Ils m'ont donné un hôtel pendant 3 nuits. Après, j'ai été hébergé par leurs soins. Et ensuite, ils m'ont loué un logement que moi-même, j'ai sous-loué pendant 13 mois. Et maintenant, je suis tout le temps dans cet appartement. Je suis totalement autonome. Donc je m'en suis sorti. J'ai eu un refus de la misère. J'ai vraiment refusé cette misère. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est quelque chose d'inhumain. Les gens ne vous regardent pas. J'ai croisé des gens qui m'avaient connu, Je leur avais fait à manger, ils m'avaient dit « qu'est-ce que t'es bon cuisinier ». Et quand j'étais dans la rue, ils ne me regardaient même pas. J'en ai même vu changer de trottoir. C'est inadmissible.
Si je vous entends bien, pour que vous soyez en capacité de refuser cette misère, à un moment, il a fallu que quelqu'un vienne vous voir et soit persévérant.
Voilà. En fait, le fait d'aller vers les autres, d'échanger, ça va vous aider à vous en sortir. Des fois, c'est un regard, un sourire. Des fois, une petite pièce aussi, faut pas hésiter. Faut toujours donner une petite pièce quand on peut. Même ceux qui sont pas dans la misère doivent refuser cette misère avant qu'elle arrive. Parce que la misère, tout le monde peut la connaître. Y a plein de formes de misère différentes. Moi, ma plus grosse des misères, c'était la solitude. La solitude m'a fait tout perdre. Le contact, l'envie d'aller vers quelqu'un, même l'envie de demander de l'aide. Je refusais de demander de l'aide. J'étais vraiment totalement isolé. Et donc j'en suis sorti. Maintenant, je suis délégué du CRPA.
Alors ça, c'est une autre... Il y a d'abord donc Adalea, c'est voilà, le premier pas.
Premier pas pour...
Et après, le CRPA, c'est aussi quelque chose d'important. Peut-être dites-nous d'abord ce que c'est le
Alors,
CRPA.
Je vais vous dire, parce qu'il y a eu la reconstruction sociale aussi, qui met du temps. C'est pas parce qu'on a un toit que tout va s'arranger. Il y a une reconstruction à faire sur soi-même. Et c'est pour ça que les associations et les structures publiques, quelles qu'elles soient, sont là aussi pour nous aider. Faut pas tout noircir. Faut quand même être positif. Il y a des solutions. C'est compliqué, c'est dur, mais il y a toujours des solutions. Moi, on me dit tout le temps, mais tu t'en es sorti parce que t'es courageux. C'est toi qui as voulu. Je dis d'accord, j'ai voulu, mais il faut aussi qu'on nous aide. On peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on soit plusieurs. Petit maillon par petit maillon, ça fait une grande chaîne. Une grande chaîne de solidarité, et ben moi ça a marché pour moi, ça a marché pour d'autres, ça devrait marcher encore pour plein de gens, je pense. C'est juste qu'il faut se regarder, se comprendre.
Vous parlez de structure publique, parce que CRPA c'en est une justement, qu'est-ce que ça veut dire déjà les quatre lettres?
Alors le CRPA c'est le Conseil Régional des Personnes Accueillies et Accompagnées. Moi j'ai été élu délégué, il y a un travailleur social pour 3 personnes accueillies et accompagnées en général. Donc on fait des plénières une fois par trimestre. Donc ça regroupe entre 80 et 120 personnes. On parle sur un sujet, le prochain, c'est au mois de décembre, par exemple. On va parler de l'intimité dans les structures. Comment on gère l'intimité dans les structures? Quelles solutions il y a? Qu'est-ce qui existe? Quelle différence y a-t-il entre les structures aussi? Parce qu'il y a des structures qui sont strictement réservées aux femmes, d'autres qui sont mixtes. Donc on va parler de ça. Donc, et c'est avec des gens comme moi, qui se reconstruisent ou qui sont encore en grande difficulté et qui viennent avec nous en partageant leur expérience. Et ça marche, ça prend et ça fait du bien surtout parce qu'on se retrouve ensemble. Et se retrouver ensemble, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça te remet en confiance, ça te refait parler. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à reparler dans ces groupes de parole qu'est le CRPA.
Et en plus de libérer la parole et donc d'être utile pour chacun de ceux qui participent, c'est utile pour la société parce que ces paroles-là, elles remontent ailleurs?
Bien sûr, elles remontent jusqu'au ministère. Donc c'est, notre parole est vraiment entendue, hein, c'est un travail qui est validé. On laisse la parole à tout le monde. Tout est pris en compte. Après ces plénières, il y a donc forcément, on fait une synthèse de tout ce qui a été dit. Et donc ça remonte au niveau du national, le CNPA, donc c'est le Conseil National des Personnes Accueillies et Accompagnées, et après ça arrive au ministère.
Les paroles de Jérôme, Cécile, nous montrent que c'est possible de construire ensemble, même quand on est tombé très 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 bas et qu'on remonte, et qu'en plus, partager ces paroles-là, ça participe de cette reconstruction-là. Vous êtes situé un peu différemment, mais au centre social, vous avez aussi l'occasion de travailler avec des gens très différents, de groupes différents, sur des projets communs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience-là, de mettre des gens ensemble pour construire peut-être une ville meilleure, en tout cas un quartier meilleur au plateau?
J'ai pas le même parcours de vie que Jérôme, mais un parcours d'expérience professionnelle. C'est vrai que je travaille dans les centres sociaux depuis de nombreuses années, et sur toute la France, les centres sociaux sont implantés sur des quartiers qu'on appelle régulièrement prioritaires, hein, avec de l'habitat social. Il y a aussi une concentration de précarité, de pauvreté, de familles vulnérables. On parle de vulnérabilité, voilà. Et c'est vrai que je vous disais tout à l'heure en présentation, c'est qu'un centre social, c'est une structure ouverte à tous. On a aussi au centre social, on parlait des migrants tout à l'heure. On accueille aussi des personnes qui n'ont pas de papier, qui sont encore en attente. Voilà. On accueille vraiment, vraiment tout public, hein, de tous les âges. Et c'est vrai qu'on est là, nous, pour créer du lien, pour créer la rencontre, les échanges. Et on essaie au maximum aussi d'aller Alors ça, on le fait à l'aide de bénévoles. Il y en a dans la salle aussi. Daniel a témoigné tout à l'heure aussi. Mais voilà, on essaie d'aller sur l'espace public à la rencontre en proposant aussi des choses sur l'espace public. Parce qu'on sait très bien que pour certaines personnes, des fois, la démarche d'aller dans une structure n'est pas simple. Et malheureusement, derrière le mot social, souvent, on voit le social, c'est pour... j'ai horreur de ce mot-là, mais pour le bannir un peu les cas sociaux, les personnes en difficulté. Sauf que si on reprend le du mot social, c'est la société et c'est tout le monde. Donc c'est vrai que ce soit sur l'espace public ou dans les structures, on devrait tous se retrouver, voilà, qu'il n'y ait pas de différence. Donc nous, au centre social, on accueille tout le monde. On a des exemples de projets où on propose sur l'espace public. Là, on a mis en place des jardins partagés. D'ailleurs, il y a une photo qui représente un jardin partagé, puisqu'en fait, c'est montré aussi que même si on n'a pas de grandes ressources, qu'on n'a pas des compétences de jardinier, on peut faire des choses, on peut partager. Donc on peut faire ensemble, on peut s'exprimer et puis on peut être sur une démarche de projet. Jérôme a aussi, je trouve qu'il a évoqué sa démarche de projet, de voir d'où il en est parti et où il en est aujourd'hui. C'est un véritable projet qu'il a cheminé dans sa vie personnelle. Et c'est vrai que sur le centre social, on est plus sur des projets. On accompagne de manière individuelle. Et quand on accompagne de manière individuelle, souvent on se met en lien avec les structures, comme Adalea, comme d'autres structures qui accompagnent les publics plus spécifiques. Et nous, on accompagne sur des projets collectifs. Donc, comme les jardins partagés, on a des groupes aussi où on peut s'exprimer. On propose des sorties, des animations, parfois gratuites. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, on est dans un lieu, la culture, les loisirs. L'accès aux loisirs ne doit pas être un frein non plus. On propose des...
Voilà. On peut dire d'ailleurs à cet égard que même en ce moment, il y a un concert au moment où on enregistre à la passerelle. Et puis un peu plus tôt dans la journée, il y en a eu un qui s'appelle Concert Sandwich. C'est quelque chose qui se fait régulièrement ici et qui se veut accessible à tout le monde, justement.
Oui, et ça rejoint un peu l'idée aussi de la photo, aussi du livre, des bibliothèques dans la rue. On peut retrouver sur Saint-Brieuc, il n'y a pas que les centres sociaux qui font. Il y a aussi une association qui s'appelle Les Incroyables Comestibles qui mettent des bacs dans le centre-ville où on peut se servir. Nous aussi, au niveau du centre social, on a des bacs où il y aura des aromates, où les gens pourront venir chercher des aromates. Voilà, il y a des choses où montrer aussi que on peut animer l'espace public.
Et est-ce que dans tout ça, des gens très différents se rencontrent, des gens de milieux sociaux différents, qui ont des vies différentes?
Au centre social, on avait rigolé, mais on a un collectif d'habitants. Et à un moment donné, on avait dit au centre social, il y a toutes les couleurs. C'est vraiment représentatif du territoire sur lequel on travaille. Et quand on parle de couleurs, c'est pas que couleur, on va dire, liée à la culture. C'est aussi lié à la culture, mais à sa propre vie. On a des jeunes, des moins jeunes. On a des personnes qui ont plus de 80 ans et qui sont très actives. Il y en a une en face de moi qui est très active au centre social. On a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes d'origine étrangère qui s'impliquent aussi en venant proposer leur culture, leurs compétences.
Et quelle est la clé, justement, pour que ça se passe bien entre tous ces gens-là? Parce que c'est pas du tout une évidence partout dans la ville que les gens puissent, au-delà même de se côtoyer simplement, mais faire des choses ensemble et être bien ensemble, quoi.
Alors déjà, c'est prendre conscience qu'ils sont des individus et qu'ils ont leurs propres compétences. En fait, on est dans des outils de valorisation des publics. C'est dire qu'ils sont capables d'eux. On parlait la barrière de la langue s'explique que chez nous, beaucoup, ça nous pose question de comment rentrer en contact avec les populations d'origine étrangère qui sont très présentes sur notre territoire. Et en fait, on a trouvé le lien autour de la cuisine, puisque essentiellement les femmes sont très liées à la cuisine. Donc on a beaucoup d'ateliers cuisine autour de préparation d'origine. Et c'est là où ça se rencontre. On a des fêtes aussi où on réunit quand on regarde la couleur aussi de notre événement, il est très festif, très coloré. Notre population est très hétéroclite sur notre territoire. Et lors d'une journée de temps, on peut réunir soit autour d'un repas, soit autour d'un événement, des personnes de tout horizon différentes, des jeunes, des moins jeunes. On a beaucoup aussi de personnes en situation de handicap qui peuvent aussi se retrouver à la rue dans différents contextes.
Plus vulnérables.
Plus vulnérables. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de structures de personnes handicapées sur notre territoire et on travaille avec eux aussi très régulièrement. Donc en fait, en centre social, on peut rencontrer tout le monde.
Tous les deux, dans vos témoignages, on voit que la ville où chacun aurait sa place, elle est déjà en marche, elle existe à petite échelle dans vos vies en tout cas.
Bien sûr.
Mais pour qu'elle prenne encore plus d'ampleur et qu'elle s'empare de toutes nos villes et de notre société, j'aimerais bien que vous nous partagiez un peu vos idées, vos utopies, mais vos utopies concrètes, des choses que vous aimeriez peut-être mettre en place pour que la ville soit encore meilleure et que tout le monde y ait encore plus sa place.
Je pense qu'il faut plus de partage. On l'a entendu depuis le début de l'émission. Le regard des autres, c'est très important. Regarder quelqu'un dans la rue qui est par terre en train de faire la manche, faut pas avoir peur. Vous n'avez pas gêné cette personne. En fait, vous la regardez pas parce que c'est vous qui êtes gêné. Vous êtes plus gêné que cette personne qui vous demande une petite pièce. Si vous n'avez pas une petite pièce, moi j'ai pas de petite pièce à donner à tout le monde, mais au moins je prends le temps de la regarder, même des fois je prends le temps de m'arrêter. À côté de chez moi, il y a tout le temps, c'est tout le temps à peu près les mêmes. Quelqu'un qui fait la manche, maintenant je m'arrête et je lui parle 2-3 minutes, mais je lui parle, je lui demande si ça va bien. Quand il pleut, donc il se met un petit peu en retrait sous un porche, mais voilà, et je lui dis si ça va, s'il a pas froid. Ça va lui faire plaisir. C'est sûr que ça va pas lui rendre, mais un peu de dignité, un peu d'estime de soi. L'estime de soi, on en a pas parlé, mais c'est le début de tout. L'estime de soi, c'est pour sortir de cette misère. Je dis, il faut la combattre cette misère.
Donc votre utopie, c'est que plus jamais personne ne passe devant quelqu'un sans
le regarder. C'est pas possible. Le seul regard lui fera du bien, de toute façon. Ce regard fait du bien, j'en témoigne, ça fait du bien.
Et ça veut dire que chacun, ici dans cette salle, aujourd'hui à la passerelle, chacun derrière son poste, a la possibilité et donc la responsabilité de faire ça.
Tout à fait, et donc c'est pas de l'utopie.
Voilà. Votre utopie à vous, alors une qui n'en soit pas une non plus, en tout cas qui soit réalisable, Cécile ?
Oui, j'ai envie de dire, on parle beaucoup de l'espace public aujourd'hui et c'est vrai que c'est souvent ce qui est le plus visible et qui des fois dérange aussi hein, sur l'espace public, on en a parlé. Et c'est vrai que moi, je l'ai perçu, on en a échangé sur les ateliers de préparation, mais je l'ai entendu tout à l'heure aussi avec une personne qui travaille sur Adalea. La misère, on la voit, elle n'est pas que dans la rue et l'isolement, il n'est pas que dans la rue. Il y a aussi des personnes qui ont un logement, un travail, qui sont isolées et dans la misère comme on peut la définir, ou la vulnérabilité ou la précarité. Comment aller chercher et aller trouver ces personnes qu'on ne voit pas et qui peuvent être anonymes, qui peuvent aussi malheureusement décéder, mourir sans que personne s'en rende compte. Parce que c'est pas parce qu'on habite en ville, alors c'est vrai qu'on est sur Saint-Brieuc ou à la campagne, qu'on connaît son voisin, qu'on connaît ce qu'il fait. Souvent on est dans le jugement, voilà. Et cette personne, elle peut rester isolée sans savoir qui elle est, ce qu'elle fait. Et je trouve que ce serait d'avoir des outils, mais j'ai pas la réponse, hein. C'est pour ça que c'est peut-être encore utopique. Et on se la pose au centre social, hein. C'est comment aller chercher, aller trouver ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont isolés et qui vont pas faire la démarche de venir. Parce qu'on dit que nos structures, elles sont ouvertes. Sylvie témoignait tout à l'heure que par son réseau, elle a pu ouvrir la porte d'Adalea, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est comment aller chercher ceux qu'on ne voit pas et qui s'expriment pas. Et tout à l'heure, Nicolas parlait de forme d'expression aussi. C'est comment, même s'ils n'arrivent pas à parler, à écrire ou à s'exprimer, c'est avoir des formes d'expression très diverses, voilà, pour permettre à chacun de s'exprimer comme le fait Jérôme aujourd'hui, ou Sylvie, ou chacun dans son parcours personnel, pour avoir connaissance, parce que souvent on a une vision erronée et on peut avoir une vision idéaliste aussi de cette vie qu'on voudrait sans les avoir entendus parler.
Puisqu'il y a beaucoup de questions dans votre utopie, peut-être que les autres personnes qui sont dans la salle vont avoir des réponses à vous apporter. Je propose qu'on poursuive l'échange avec tout le monde.
Vous avez dit fragile ? RCF.
Comment construire une ville où chacun aurait sa place ? C'est à cette question que nous essayons de répondre ensemble ici à la passerelle à Saint-Brieuc, à l'occasion de la journée du refus de la misère, puisque nous enregistrons cette émission le 17 octobre. Après les témoignages de Jérôme et de Cécile, je vous propose de poursuivre l'échange et la réflexion en partageant nos rêves, mais aussi des idées très concrètes sur la manière dont chacun peut à son niveau construire cette ville meilleure, car c'est sans doute une affaire dont chacun d'entre nous est responsable. Daniel ?
Alors, on a beaucoup parlé de bancs publics dans cette émission. Et Marie-Raphaël, vous vouliez revenir justement sur cette question des bancs.
Exactement. C'est parce que les bancs dans Saint-Brieuc, eh bien, ils existaient et maintenant, ils ont été enlevés. Une des raisons que l'on donne, c'est qu'on ne veut pas que les clochards s'assoient ou s'allongent dessus. Moi, j'habite dans un quartier dans le centre-ville où il y a de nombreuses personnes âgées et qui ont du mal à marcher, et qui se demandent comment faire pour aller d'un lieu à un autre. Alors, en cherchant à droite, à gauche, en demandant même à la municipalité, peut-être que ça reviendra, et que les bancs reviendront pour la joie de tout le monde, et pas simplement pour les petits oiseaux.
Ce que vous voulez dire, c'est que, en fait, l'espace public ne permet pas aux personnes âgées ou des personnes en fragilité de sortir, eh bien, elles ne sortiront plus, elles vont être encore plus isolées.
Exactement.
on reste ou on réfléchit combien de pas on va pouvoir faire, 50 mètres, 100 mètres, avant de trouver un banc. Si on pense qu'on ne trouvera rien, eh bien on reste chez soi.
Sabine, vous faites partie du groupe ATD Quart-Monde de Saint-Brieuc.
On est dans ce lieu qui s'appelle la passerelle, ce lieu de culture. Et je crois que ce qu'on cherche à faire, justement, c'est qu'il y a des passerelles entre tous. L'expérience d'aujourd'hui, ici, elle est formidable parce qu'on est nombreux, on est d'horizons différents, de multiples associations. La ville est partenaire de l'événement parce que du côté des élus, il y a évidemment le souhait, le désir d'un vivre ensemble harmonieux. Donc on rencontre des aspirations communes, qu'on soit d'un bord ou d'un autre. Et donc des passerelles, il y en a créées un peu partout, des petites passerelles, des petits ponts, des lieux de rencontre dans chacun des quartiers, avec des petits jardins publics où on est des espaces à vivre avec des bancs. Le père Joseph disait « Chaque geste d'amour fonde l'espoir des pauvres ». Ça veut dire que ce qu'on fait même dans sa cuisine, ce tout petit geste de je sais pas, n'importe quoi, du matin au soir, les petites choses, contribuent à nous donner de l'énergie, à nous-mêmes et puis aux autres. Donc les gestes de partage, c'est infime, c'est n'importe quoi, c'est le sourire, c'est des milliers de petites choses. Et c'est ça qui fait la joie de vivre.
Alors dans ces espaces de partage, Michel, vous vouliez nous parler des dimanches fraternels. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est, où ça se passe?
On se rassemble à Saint-Guénolée. On invite tout le monde, que ce soit les étrangers, les Français, n'importe qui, à venir avec nous. On partage un repas. Nous faisons des jeux, des animations, et voilà.
Et pourquoi vous aimez y aller?
Moi, j'aime bien parce que j'aime bien rencontrer les personnes.
Donc là, on est sur des choses qui sont quand même très simples à organiser. C'est pas très coûteux. Et visiblement, ça apporte beaucoup.
Ça apporte beaucoup, mais on voudrait élargir notre groupe parce que on n'est pas très nombreux. Donc
Marie-Armelle, vous en faites partie également. Peut-être que vous avez envie de nous dire aussi ce qui vous plaît dans ces dimanches fraternels.
Eh ben moi j'y vais parce que j'aime aussi voir beaucoup de monde et puis ça permet aux gens de faire plaisir aux gens qui sont seuls le dimanche et qui ne savent pas quoi faire. Eh ben au moins de partager un repas ensemble. Et de faire un dimanche après-midi heureux pour eux, au moins une fois par mois, c'est déjà pour eux, ce sera déjà beaucoup. Et puis nous, ça nous fait plaisir. Mais il faut que ces personnes veuillent aussi venir avec nous, parce qu'on a du mal à les faire sortir, parce qu'ils ont peur de sortir peut-être tout seuls. Il faudrait peut-être les aider à venir jusque-là.
Pierre, vous faites partie de plein de groupes, vous m'avez dit. Et vous vouliez nous parler du rôle des institutions dans les questions qu'on se pose aujourd'hui.
Oui, parce que je pense que toutes les initiatives individuelles sont les bienvenues. Tout ce qu'on peut faire dans les quartiers pour accueillir, pour partager, tout ça, c'est très important. Mais il ne faut pas non plus oublier l'aspect structurel de cette pauvreté, de cette misère. Et on rêve d'un monde où on pourrait aller gratuitement chez le médecin, où chacun aurait un logement, où chacun aurait un travail, où les richesses seraient peut-être mieux réparties. Et là, je crois que c'est vraiment un aspect politique et qu'on doit se poser la question du raison de cette misère, qui parfois n'est pas juste un coup du sort qui s'abat sur quelqu'un, mais qui est le résultat de toute une politique aussi.
Liliane.
Bonsoir. Je suis très heureuse de participer à ce groupe parce que c'est quand même très enrichissant d'abord. Alors, je suis bénévole au Centre social du Plateau. Je fais partie de l'équipe qui discute du projet, disons, que l'on fait au Centre social du Plateau. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de la misère que l'on voit dans la rue. Mais on oublie aussi de la misère cachée. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile de sauver les personnes qui cachent leur misère plutôt que de sauver les personnes qui sont dans la rue. Alors, au Centre social, nous avons travaillé beaucoup sur le projet. Nous faisons beaucoup de choses avec Cécile. Nous avons eu l'idée de parcourir les rues et d'essayer de parler aux gens, même ceux qui sont chez eux, qui sont éventuellement à leur fenêtre, essayer de les rassembler, de leur demander de sortir de chez eux pour pouvoir participer à la vie dite sociale. Je trouve aussi que quand on parle du social, on oublie d'associer tout le monde. Hein. Le social, c'est, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui paie, c'est tout le monde qui récolte. Donc, il ne faudrait pas oublier d'avoir un mélange des différentes strates de la population.
Peut-être sur cette question-là, qui était aussi celle de Cécile, du comment on fait pour aller chercher les personnes, enfin la misère cachée, les personnes qu'on ne voit pas. Est-ce que certains d'entre vous ont des idées concrètes sur la question ?
Je m'appelle Annick. Je vis depuis 10 ans, par choix, dans un quartier populaire de Saint-Brieuc. C'est pas en leur disant « venez, 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 on organise ceci, on organise cela, il y a ceci, il y a tel lieu d'expression ». Ils ne viendront pas forcément. Comment viendront-ils un jour ? Peut-être. Si on les contacte, j'allais dire, par des liens de voisinage, des liens de proximité, des liens d'amitié qui se créent peu à peu. Et la confiance naît. Et peu à peu, oui, ils viendront avec nous. Mais il ne faut pas croire qu'on va révolutionner le monde. Il y a 10 ans que je suis là, ça n'a pas changé grand-chose.
Bonsoir, je suis Philippe. J'ai retrouvé Saint-Brieuc, ma ville native. Voilà, je fais des photos. Je marche beaucoup. À 8h30, je marche. Et je rencontre des gens des SDF. Et des fois, il y en a qui ont du mal à s'exprimer. Mais des fois, on entend des choses qui se libèrent. Il faut s'asseoir sur un banc. Il n'y a pas que les SDF. Il faut s'asseoir sur un banc et regarder aussi les personnes d'un certain âge qui sont seules et qui ont besoin de discuter. Et puis, on fait un déclic et dit « Ah, vous êtes de Saint-Brieuc ? Ah oui, je connais ça. » Puis c'est un sourire, un regard. Moi, je suis comme ça, c'est un sourire, un regard, c'est joli.
Alors, je vous propose que pour terminer cette émission, on donne la parole de nouveau à quelqu'un qui l'a eu au début. C'est Jean-Claude, d'ATD Quart-Monde notamment, et puis Diacre. Jean-Claude, vous avez beaucoup écouté pendant tout ce temps ensemble. Qu'est-ce qui vous a paru particulièrement intéressant ? Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Tout d'abord, je voudrais quand même dire que cette journée, elle a pu se faire parce qu'il y a eu aussi tout un travail en amont. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et donc nous nous sommes connus et reconnus. Je peux dire qu'il y a eu des gens différents, en fait, qui ont bâti quelque chose ensemble. Et du coup, quand je regarde l'affiche du 17 octobre, là, c'est une affiche avec des mains tout autour d'une phrase qui dit « Pour un monde autrement », je crois que vraiment nous avons vécu quelque chose autrement. Pour mon témoignage personnel, je n'avais pas encore travaillé avec Cécile ou avec Claire. Daniel, je le rencontrais des fois dans la rue, mais on n'avait pas eu d'échange. J'avais croisé Sylvie aussi quelques fois, mais nous avons vraiment passé un après-midi à réfléchir ensemble. Et maintenant, quand je croise Jérôme à Balzac, on se dit salut. Ce que je veux dire par là, c'est que on a créé un bout d'histoire ensemble. Et ça me semble... Pour un monde autrement, ça me semble important de dire que il faut trouver les moyens de créer un bout d'histoire ensemble. Alors bien sûr, il y a eu des phrases fortes qui ont été dites cet après-midi. Il ne faut pas nous habituer à voir ces photos que nous venons d'exposer. Nous nous sommes mis en collectif, effectivement, c'est bien pour tendre à ce que ça n'arrive plus. Et dans l'échange que nous avons vécu, on a beaucoup parlé du regard. Le regard est quelque chose d'essentiel parce que le regard remet l'homme debout. Le regard redonne la dignité à l'homme et le regard dit que l'autre et moi-même, nous sommes des personnes. Alors j'ai entendu que nous voulions des espaces publics accueillants pour rompre l'isolement. J'ai entendu aussi qu'il fallait des passerelles pour plus de convivialité. Nous avons dit aussi qu'il fallait des lieux d'espace d'expression. J'ai entendu qu'il y avait aussi des misères cachées. Et là, je crois que je voudrais juste reprendre une parole de Joseph Brzezinski qui disait que on n'épouse pas la misère. On a dit, effectivement, dans cette assemblée-là, que quelque part, la misère, il y a des raisons politiques à regarder de près pour que ça n'arrive plus. Et pour terminer, je voudrais vraiment parler de ces liens de proximité et de voisinage que nous avons parlé, puisque je pense que c'est ça l'essentiel aussi.
Alors ça peut être avec cette invitation-là qu'on repart tous, nous ici à Saint-Brieuc, mais peut-être aussi les auditeurs d'RCF qui ont passé ce moment avec nous et qui vivent eux aussi dans des villes et dans des quartiers. Donc merci Jean-Claude pour cette invitation-là à tous. Merci vraiment à chacun pour sa parole. Je pense que c'est pas Daniel Massiel qui va me contredire. On n'a jamais vécu dans cette émission, vous avez dit fragile, une aussi grande diversité ensemble. Donc bravo Saint-Brieuc pour cette capacité-là à se mettre ensemble pour construire des belles choses, puisque c'est assez réjouissant, même si, on l'a bien compris, le chemin à parcourir pour vaincre la misère reste encore long. D'autres merci, Guillaume Thiénot à la réalisation technique d'RCF Finistère, Daniel Massiel pour la co-animation et puis la préparation qui permet de libérer la parole, comme ça a été le cas ce soir. Un dernier merci, un grand merci à La Passerelle. C'est pas non plus dans toutes les villes qu'on peut faire une émission de radio dans un lieu de culture comme ça, ayant vitrine sur la cité. Donc merci beaucoup aux responsables de La Passerelle qui nous ont permis de faire cette émission ici aujourd'hui. Et puis merci à vous tous et bravo à chacun et chacune.